trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Aymeric Didet est avec nous, le directeur de la gestion de Pergame. Bonsoir Aymeric.
Bonsoir Grégoire.
Gustave Orenstein nous accompagne également, responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Bonsoir Gustavo.
Bonsoir.
Et Alexandre Drabovic est avec nous également, le directeur des investissements d'Indosuez Wealth Management. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Grégoire.
Merci d'être là messieurs, ravi de vous retrouver. C'est notre semaine de rentrée pour Smart Bourse. Hein. On est dans les premières émissions de 2025. Un mouvement déjà qu'on peut constater, c'est ce qui se passe de manière assez globale d'ailleurs sur les taux longs, sans doute guidé par le marché américain comme souvent. Alexandre, alors c'est vrai que les taux longs n'ont cessé de se réapprécier en tendance depuis la première baisse de taux de la Fed en septembre dernier. Il y avait eu un petit répit, je me souviens, au début du mois de décembre, on avait vu les taux américains retomber autour de 4,20%. Et c'est vrai que sur le mois écoulé, de début décembre à aujourd'hui, on a repris très vite 40 voire 50 points de base sur le 10 ans américain, avec un mouvement de contagion à l'ensemble de l'obligataire mondial. Alexandre, premier commentaire peut-être sur ce mouvement, quelles sont les raisons, les justifications qu'on peut apporter ex ante à ce mouvement de repentification là.
Ex ante, c'est toujours facile à trouver hein, finalement, mais moi j'aime bien le parallèle finalement à la première présidente de Trump, où on retrouve exactement le même chemin. C'est-à-dire qu'en 2016, il y avait une remontée de 100 points de base à des taux américains. Donc finalement, quand vous superposez ces deux événements à quelques semaines près, c'est la même amplitude. Je pense que je l'avais d'ailleurs mentionné précédemment. Elle s'est fait effectivement en deux mouvements. Hein. Il y a un premier 50 BP qui s'est fait reconstitution de prix. Peut-être que les taux étaient arrivés un peu trop bas, avec une économie américaine qui finalement...
On partait de 3,60, hein, c'est ça, en septembre.
3,70. Hein. Ouais. Après, il y a eu ces petites pauses avec la nomination de Scott Bessent. Puisque là, on disait, ouais, bah, finalement, si Trump a choisi Bessen, c'est qu'il a en tête qu'il faut quand même être précautionneux. Il a quand même une facture à gérer importante sur sa dette et ça lui coûte beaucoup d'argent. Il ne veut pas non plus que ça dérape. Et puis là, ce dernier mouvement, il est, je pense, à la fois lié avec des nouveaux chiffres. Pauline en parlait de l'ISM Services, donc il y a quand même une vigueur de l'économie américaine. On a un petit peu d'inflation. Et puis, globalement, je pense que les investisseurs, aujourd'hui, sont plutôt à se dire... comment Trump va un petit peu interagir au début de sa présidence, on manque de visibilité, et comme on manque de visibilité, on dit, bon ben, vaut mieux attendre que ça se calme avant de s'engager à nouveau sur le tour. Moi, ce qui me frappe un petit peu aujourd'hui, c'est que quand on était à 3,70, plus personne parlait des taux longs américains en disant ils vont aller à 5, et maintenant qu'on est à 3,70, tout le monde dit...
Quand on est à 30 points de base des 5, tout le monde nous dit qu'on va aller à 5.
Oui. Donc, je ne dis pas que ça va s'arrêter à ce niveau-là. Il y a quand même un gros ajustement qui s'est opéré.
J'entends.
Le marché obligataire, et ça fait depuis maintenant 18 mois qu'il y a quand même une volatilité beaucoup plus importante que les actions. Et ça, il faut l'accepter. Ça va, je pense, encore perdurer pour quelques temps. Maintenant, est-ce qu'on commence à arriver à des niveaux qui commencent à devenir attractifs? Je pense. Alors, ça peut exagérer facilement. Hein. On peut vous parler du marché du gilt. On a vu que ça peut déraper un peu plus facilement.
Le marché britannique souffre beaucoup aujourd'hui, hein, le marché obligataire britannique.
Ouais, c'est pas la même liquidité, c'est pas la même typologie d'investisseur, donc je ne ferai pas le parallèle en disant que ce qui se passe sur le UK, c'est ce qu'on va voir sur le marché américain. Mais il y aura à un moment donné un niveau de taux qui va redevenir intéressant pour les investisseurs en termes de portage.
Mais pour ça, il faudra de la visibilité sur l'exercice du pouvoir de Trump et sur la partie ou les parties de son programme qu'il va vouloir appliquer et celles qu'il diluera ou qu'il laissera peut-être de côté. Mais sans cette visibilité-là,
voilà,
les flux reviendront pas massivement sur les parties longues de courbe.
Tout de suite. Évidemment, le marché est toujours en mode « je ne sais pas, donc quand je ne sais pas, je préfère me désengager ». Donc on manque aujourd'hui, évidemment, de cette visibilité. L'inauguration, c'est le 20. On en saura un peu plus. Les effets d'annonce, on en aura encore. Et on connaît le personnage là-dessus. Il est très, très bon dans l'exercice. Maintenant, je pense que ma conviction, c'est que Trump 2.0, il sera peut-être un peu différent. Il n'est pas tout à fait fou non plus. Il va être peut-être un peu mieux entouré cette fois-ci. À la fin de la journée, Trump, lui, son baromètre, c'est quand même les actions. Hein, c'est le S&P 500 en termes de réussite économique, mais son baromètre en termes de crédibilité financière, ça sera le 10 ans.
Ouais. Sur ce mouvement de taux, Gustavo, qu'est-ce qui vous intéresse? En regardant un peu comment il se décompose, je vois quand même que les points morts, enfin l'idée des break-even, montre que le marché tâtonne un peu à la hausse quand même sur ce qui pourrait être des points d'équilibre pour nos économies, peut-être dans le monde actuel.
Oui, il y a la question des taux réels. Ouais. Ce qu'on voit, effectivement, c'est pas des chiffres d'inflation en eux-mêmes ou des choses comme ça. C'est plutôt des chiffres liés à la croissance, une croissance solide qui fait plutôt monter les taux, et donc les taux réels. Et ça, c'est plutôt vertueux, on dirait. On pourrait dire que c'est une hausse de taux qui, en elle-même, n'est pas problématique pour les marchés financiers. Le problème, simplement, c'est que Trump arrive dans une économie américaine qui est déjà, avec un marché de travail... Alors qui a refroidi, heureusement. Je dirais heureusement qu'on est dans une phase où le marché du travail c'est déjà un peu est en refroidissement. Imaginez si c'était arrivé tout ça il y a encore quelques mois en arrière. Tout ce qu'on a vécu depuis 18 mois, ça rentre un peu dans nos pensées. Hein. Il faut se rappeler qu'à l'été 2024, le taux de chômage américain remonte et ça y est, la SAM roule. Oui. On avait discuté.
Oui, bien sûr.
Tout d'un coup, c'était ça y est, la récession est certaine. Et puis, du coup, non.
La Fed est en retard, etc.
D'ailleurs, la Fed elle-même agit. Elle baisse de 50 points de base. Hein, on se souvient, elle. Donc, pourquoi ? Le thème de l'année dernière, c'était le put des banques centrales, le put de la Fed. On en avait plusieurs fois parlé, c'était vraiment notre idée. Et ça, c'est ce qui a permis, évidemment, libérer énormément les acteurs sur le marché financier. Si ça ralentit, c'est pas grave, la Fed est là.
Bon. On a cette assurance aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est une phase un peu différente, c'est une phase d'équilibre, de policy mix. Il y a un problème d'équilibre entre la politique budgétaire et la politique monétaire en règle générale. Il est différent, les réglages sont différents en Europe et aux États-Unis. Mais pour ce qui est des États-Unis, évidemment, arrive le leader de la politique budgétaire, c'est-à-dire Trump. Et on attend tous, évidemment, de voir exactement comment il va faire, dans quel ordre il va faire. Et c'est assez complexe. Par exemple, s'il y a les droits de douane, mais que simultanément, il y a une baisse d'impôts, bon, il y a une forme d'équilibre à peu près maintenu d'un point de vue économique. Si finalement, il ne passe que les droits de douane et pas du tout du côté des impôts, là, pour le coup, c'est juste une hausse des impôts. Du point de vue des Américains, c'est un choc très plutôt négatif. Et du coup, ça crée tout un tas de réflexions. Faut-il acheter des taux ou les vendre à ce moment-là? C'est un choc inflationniste. Mais en même temps, c'était bien une hausse d'impôts. Donc, sans doute, attendre qu'ils montent et puis les acheter ou des choses comme ça.
Enfin, en 2018, la Fed avait plutôt vu les tarifs comme étant effectivement, alors peut-être inflationniste en première intention, mais surtout avec un effet potentiellement récessif derrière. C'est plutôt ce qui avait guidé l'ajustement de la Fed sur la première guerre commerciale 2018-2019.
Et surtout attendre les résultats effectifs, voir exactement comment ça va impacter. C'est extrêmement difficile de savoir exactement l'impact que ça va avoir. C'est pour ça que la Fed, en tout cas, dans sa communication, a prudemment dit qu'elle ne spéculait pas sur ce qu'allait faire Trump, mais attendait de voir les résultats concrets de ces actions. Bon, effectivement, la Réserve fédérale ne peut pas faire comme les investisseurs, ne peut pas passer son temps à acheter, vendre, acheter. Elle doit avoir une politique qui a l'air d'être à peu près prévisible, lisible en tout cas, donc elle va attendre. Mais nous, sur les marchés, évidemment, on est obligé d'agir perpétuellement. Pour l'instant, sur le marché obligataire, je disais, la hausse, en partie, c'est lié à la croissance résiliente aux États-Unis, donc n'est pas problématique. Mais là, ces derniers jours, ça commence à devenir un peu plus vicieux. Et on voit que c'est vraiment un risk-off sur les marchés obligataires. C'est pour ça que les spreads, même l'OAT Bund s'écarte. Et je ne crois pas que ce soit lié spécialement au problème budgétaire français. C'est simplement
c'est le mouvement global.
C'est le bêta plus élevé que l'Italie et le Royaume-Uni. Effectivement, il y a un marché un peu plus sensible. Et du coup, s'écarte et plus volatile. Donc on est dans ce moment un peu plus gênant. Même si, effectivement, je partage l'avis, il y a un moment où ça va redevenir intéressant d'investir dans les marchés obligataires. Pour le cas américain, les taux réels à long terme aujourd'hui aux États-Unis sont au-dessus de 2,5. Ouais. Si j'étais un ménage américain préoccupé par mon épargne, je ne suis pas, j'en mettrais évidemment une grande quantité parce que d'un point de vue de l'épargnant à long terme américain, le vrai taux sans risque, c'est ça, c'est le TIPS. Je suis protégé contre l'inflation.
2,5% de rendement réel.
Exactement.
Sur 10 ans.
Sur 10 ans, pour ma retraite, c'est très bien.
On aimerait bien l'avoir en or.
On n'a pas ça en or. Alors ça aussi, c'est évidemment dans les différentiels de comportement des taux. Côté européen, on est moins convaincu de la valeur des taux. Le taux sans risque européen aujourd'hui, ça reste toujours le taux allemand. Oui. Et le taux allemand, même à 10 ans, il est le taux
même réel, à 2,50.
Le taux réel est légèrement positif.
Mais à peine.
Donc,
il n'y a pas cette marge de confort qu'on peut avoir sur l'obligataire américain aujourd'hui. Bon, comme le disait Gustavo, 4,75, moi j'appelle ça un peu la zone de douleur ou de danger, quoi. C'est-à-dire que chaque fois qu'on est arrivé dans ces niveaux-là, on a vu quand même le marché action un peu octé, hein. Et Nvidia était l'emblème hier, je crois que ça ouvre à plus 2 et ça finit à moins 4 ou moins 6, je sais plus, moins 6. Bon, même une valeur comme Nvidia, à un moment, peut se faire rattraper par la patrouille des taux d'intérêt, quoi.
C'est très clair. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est presque des opportunités parce qu'il y a beaucoup de reflux, parce que c'est des marchés qui sont très guidés par les flux. Et il y a beaucoup de sorties du marché obligataire qui expliquent ces hausses de taux assez nettes.
Il y a beaucoup d'offres aussi, hein. Début d'année, alors, là, le Trésor émet 119 milliards, oui, je crois, américains, les corporate émettent, c'est ça.
On vient de vivre 2-3 jours exceptionnels.
Ah oui, avec une offre incroyable.
Incroyable sur les émissions corporate. Mais nous, on le voit presque plus un peu comme une opportunité, parce que comme on le disait juste précédemment, des taux réels aussi élevés, notamment aux États-Unis, historiquement, c'est plutôt des opportunités. Parce qu'il ne faut pas oublier que des taux élevés aux États-Unis, ça coûte extrêmement cher quand vous avez une charge de la dette aussi importante, que vous avez 7% de déficit, et donc que vous devez chaque mois payer des taux d'intérêt, de l'intérêt à rembourser. Donc aujourd'hui, on est plutôt à penser que c'est des superbes opportunités sur le marché obligataire de rentrer du papier aujourd'hui. Mmh. Parce que, in fine, les taux vont quand même, je ne pense pas, en tout cas, ce n'est pas notre scénario, exploser beaucoup plus loin à la hausse.
Donc, on restera en terrain connu. 5% autour, comme on le disait, effectivement, plus on se rapproche des 5%, plus on voit tout le monde nous dire qu'on va à 5%.
Oui, mais même aujourd'hui, à 4,70, reste intéressant. Parce que pour nous, en tout cas, selon notre scénario, ça va se stabiliser, voire rebaisser. Parce qu'encore une fois, le marché américain ne peut pas non plus supporter une hausse perpétuelle et beaucoup plus élevée que ça des taux d'intérêt. Et auquel cas, il se mettra à risque. Donc là, on devrait avoir une intervention beaucoup plus forte de la part des institutions et donc des banques centrales et de la réserve. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est plutôt à favoriser l'opportunité qu'on a de rentrer du papier obligataire quand on a évidemment des marchés qui baissent autant sur le marché obligataire, que ce soit aux États-Unis, mais on regarde aussi en Europe, parce que, in fine, les taux européens, c'est vrai que les spreads de crédit sont au plus bas. On n'a pas de stress dans le marché du crédit aujourd'hui, du marché des obligations d'entreprise. Mais si on commence à avoir du stress, on va avoir des taux qui baissent. Donc, au final, ça reste une bonne opportunité quand on a des taux réels, élevés, de mettre du papier obligataire dans les portefeuilles. Et même aujourd'hui, on a plutôt tendance à rallonger les maturités. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, mais on a plutôt l'impression qu'on va sur une stabilité, voire baisse des taux. Donc, on essaie de mettre vraiment à profit le portage obligataire aujourd'hui dans les comptes. Et donc, nous, la zone...
Quand on fait de l'obligataire, c'est qu'on pense qu'on va mieux faire avec de la dette moyen-long terme que ce qu'on peut faire avec du monétaire.
Hein. Tout à fait.
D'accord.
Tout à fait.
Donc, cette idée-là, elle gagne quand même en vigueur.
En vigueur. Et puis, on a quand même l'impression que les banques centrales vont avoir tendance à baisser les taux de toute façon et sont inscrits dans cette ligne, y compris pour 2025, que ça soit aux États-Unis ou en Europe. Donc, au final, on se retrouve avec des courbes de taux qui ont de la pontification. Et quand on a de la pontification sur les courbes de taux, c'est bon pour le propriétaire d'obligataires, donc détenteur d'obligataires. Donc, c'est pour ça qu'on en met aujourd'hui encore aujourd'hui en tout cas, dans les portefeuilles.
Le 3 mois 10 ans est redevenu positif aux États-Unis, là, pour la première fois depuis 2022. Sur les banques centrales, la question étant jusqu'où est-ce qu'elles vont quand même baisser les taux, à commencer par la Fed. Je reviens à l'idée de la hausse de taux. Enfin, on voit là aussi que le marché anticipe des taux d'arrivée, des taux neutres, d'équilibre, beaucoup plus élevé que ce qu'on voyait il y a encore quelques semaines aux États-Unis, mais aussi en Europe. Hein, quand je regarde les prix de marché, le marché se dit que la BCE aura peut-être du mal à baisser les taux en dessous de 2%, alors que c'était une idée qui commençait vraiment à faire son chemin, peut-être il y a encore quelques semaines ou quelques mois, Alexandre. Et aux États-Unis, le marché n'imagine pas que les taux fédéraux pourront baisser facilement en dessous de 4%. Dans le contexte actuel. Hein.
Gustavo l'a dit tout à l'heure, hein. Finalement, la Fed, elle a été claire en tout 2024. Elle a dit que ça sera 3 ou 4 baisses. Le marché était entre 7 baisses et 0. Finalement, elle a fait ses 100 BP.
Ouais.
Donc, en fait, on voit que le marché peut aller dans tous les sens. On ne va pas réviser non plus les taux tous les jours. Elle ne peut pas non plus aller changer d'avis tous les jours. Mais non, je dirais quelque part, la Fed est un petit peu smart actuellement parce que le marché anticipait trop de baisses. Donc là, elle a un peu calmé le jeu. Donc quelque part, elle se donne peut-être un peu d'optionnalité à ce niveau-là. Dit autrement, OK, on n'aura peut-être que 2 baisses des taux sur l'année à venir. Elle est aussi un peu en mode en gestion de risque.
Oui.
Parce qu'il y a effectivement cette inflation où les tarifs douaniers pourraient importer de l'inflation. Et là, elle se dit qu'il faut quand même être un peu précautionneux. Mais je rappelle au mois d'août, et l'analogie est très très bonne, c'est dès qu'on a eu un petit problème sur l'emploi, ouais, on sait très bien que la Fed elle peut être réactive. Et elle va dire, bah, moi, mon mandat, c'est double. Et avant tout, c'est maximiser l'emploi. Donc elle peut se permettre à moins de dire, vous savez quoi, l'inflation, les tarifs douaniers, c'est temporaire, c'est un effet et on va passer à travers. Par contre, j'ai un emploi qui est en train un petit peu de se ralentir. Moi, je veux empêcher le risque de récession et donc je serai derrière. Donc elle est, je dirais, quelque part aujourd'hui, avec un marché dont les attentes se sont bien calmées, elle peut se permettre aujourd'hui, à un moment donné, d'avoir un discours en disant, vous savez quoi, je pourrais peut-être même m'accompagner et ma politique est peut-être même restrictive parce que les taux réels aujourd'hui aussi élevés, elle a finalement une politique restrictive. Et on l'a vu en général, et je reviens à ce qui a été dit, quand les taux longs sont un peu trop tendus, on a même vu à un moment donné des membres de la Fed qui s'exprimaient pour essayer d'un petit peu calmer le jeu. Ouais. Alors, il y a le fameux, la notion de put sur le S&P. Moi, j'aime bien aussi la notion de put sur l'obligataire. Ouais. Parce que la Fed, elle, c'est pas le trésor, évidemment, mais ils travailleront ensemble. À 5%, je pense que M. Powell, il dort pas très très bien.
Ah bah non.
Donc, c'est... Voilà. Donc la pontification de la courbe, elle, ouais, peut continuer à s'accentuer, mais on pourrait tout à fait avoir aussi un phénomène où, à un moment donné, on peut avoir des taux courts qui se détendent et une stabilité du long terme. Maintenant, pour la BCE, je pense que c'est un peu différent. Dans le sens où elle n'a pas la problématique d'une économie vigoureuse comme aux États-Unis. C'est plutôt une économie qui est molle. Si Trump tape sur l'Europe, nous, on a un peu du mal à se mettre en ordre de marche pour négocier et à trouver un deal avec lui. Et le ton de la BCE, il change quand même un petit peu. Donc, effectivement, à un moment donné, le marché se disait, on pourrait aller à 1,5 en Europe, on revient à 2. Nous, effectivement, on a toujours en tête qu'on aura 4 baisses l'année prochaine chez Indo Suez.
Okay.
Mais voilà, on a en gros ce matin une prédiscussion avec notre comité d'investissement la semaine dernière. Je pense qu'on va plutôt réviser même encore un peu plus bas.
Et la BCE... plus que 4 baisses.
Oui.
Oui, c'est ça.
Bah, la BCE, elle a 8 meetings cette année.
Oui, oui.
Donc,
oui,
elle aura 8 occasions de baisser les taux. Est-ce qu'elle va faire, par exemple, une baisse de 50 comme la Fed? Non. À mon avis, il y a suffisamment de faucons pour dire non, on ne va pas aller aussi vite que ça. Mais on pourrait très bien avoir 5 fois une baisse de 25. On pourrait aller à 1,75. Mais ce qu'il faut voir en tête, c'est que même à 2 ou 1,75, on est neutre.
Oui,
on n'est pas en politique
accommodante.
Où on est très en train d'accompagner l'économie et aider l'économie. C'est ça qu'il faut avoir en tête. On parle du taux neutre. On parle du taux je suis en train de réinjecter quelque chose dans l'économie. Alors, est-ce qu'elle pourrait aller, est-ce que par exemple, vous savez, les anticipations de la Banque Suisse, même aller à taux zéro, voire même négatif.
Négatif. Ah ben, on en reparle. Négatif. On en reparle.
On y est très très loin, puisqu'on n'est pas en déflation comme en Chine, par exemple. Mais il est vrai qu'on a quand même des forces aussi déflationnistes, notamment au niveau des salaires. Ça a été une préoccupation pour la Banque Centrale Européenne, mais aujourd'hui, avec un marché du travail et une économie qui est en train de ralentir, la capacité, et on l'a vu même, il y a un indice qui traque en fait la progression des salaires, et est en train de retomber très très vite, ça peut donner un certain niveau de confort à la BCE, et en tout cas dans son discours, dire, eh bien finalement, cette force-là aujourd'hui est en train de descendre, donc je suis capable de baisser les taux, parce que j'arrive finalement à mon inflation cible de 2%, donc je peux donner de l'air.
Bon, l'inflation des services reste à 4%. Hein. C'est ce qu'on a vu encore cette semaine.
Oui, ben, ça ne bouge pas beaucoup. Par, on va dire, ce résiduel de pression qui venait des salaires, mais qui est en train de diminuer.
Ça va être, comment vous voyez l'année des banques centrales? Ça va être une année de tâtonnement, là, effectivement. Déjà, la question du taux neutre reste toujours une question très ouverte, hein, de ce point de vue-là. Gustavo?
Oui, justement, je disais l'année 2025 tout à l'heure, hein,
c'est
l'année du policy mix.
Ouais.
Donc ça, c'est 2024.
Ah pardon, 24, oui, 24.
25, l'année... c'est le policy mix.
D'accord.
Ça veut dire, pour le policy mix, c'est les économistes utilisent ça pour rappeler qu'en fait, la politique monétaire ne peut pas être jugée indépendamment de la politique budgétaire. C'est un ensemble. Du coup, où est le taux neutre? Qu'est-ce que c'est une politique monétaire restrictive ou pas? Ça dépend de la politique monétaire et la politique budgétaire qui l'accompagne. Et là, il y a vraiment une énorme différence entre la position des États-Unis aujourd'hui, où il y a un déficit très important, et arrive Trump avec l'idée d'en rajouter encore, enfin de déréguler, de pousser encore plus la croissance, mais sûrement pas de baisser le déficit. Alors, il n'est pas tout seul, effectivement. Il y a un débat, parce que les Républicains ne sont sûrement pas tous d'accord sur ces questions-là. Mais entre ce qu'ils veulent, ce qu'il va sortir, tout ça est assez compliqué. Mais disons, pour l'instant, l'impression que ça laisse, c'est plutôt qu'on continue sur une politique budgétaire quand même très, très expansionniste, un déficit budgétaire qui reste constant. Ce qui fait que la politique monétaire doit être d'autant plus resserrée, ne serait-ce que pour maintenir la forme d'équilibre. Mmh. En Europe, c'est complètement différent, puisqu'on a plutôt une politique budgétaire plutôt resserrée, qui se resserre, et simplement on espère qu'elle se resserrera moins. Il y a la question de l'Allemagne, et puis il y a la question de la France, de tous les débats actuels budgétaires, où on ne sait plus très bien si le risque, c'est qu'ils en fassent trop ou pas assez. Enfin, disons, d'un point de vue
maintenant, c'est
conjoncturel...
Réduire le déficit à moins de 5% cette année, ce serait un danger. C'est ce qu'on entend.
C'est assez logique. On sait bien que c'est un coup, et le faire à un mauvais moment...
Le faire trop vite, trop fort,
on sait que c'est contre-productif. Je prends une casquette vraiment d'une analyse purement cyclique, sans parler de la soutenabilité à long terme ou quoi que ce soit. Donc il y a des questions de cet ordre-là, et qui sont différentes entre les États-Unis et l'Europe. Mais il faut bien avoir en tête que c'est cette histoire de policy mix qui compte. Et donc on ne peut pas juger de savoir si la Fed est neutre ou au-dessus du neutre, ou resserre ou ne resserre pas, indépendamment de ce qui se passera justement du côté de la politique budgétaire. Ouais. Et là, il y a toutes les incertitudes politiques dont on a parlé.
Ouais. On peut imaginer une divergence forte, si nécessaire, entre la Fed et la Banque Centrale Européenne. Enfin, les fondamentaux pourraient justifier et pousser même la BCE à continuer d'agir en solo quand la Fed se serait peut-être déjà mis en pause pour une durée longue.
Je pense. La BCE a déjà montré l'année dernière qu'elle n'était pas du tout suiveuse. Elle a un mandat.
On est moins inquiet sur cette capacité de la BCE à continuer à y aller en solo. Ce qu'elle a démontré l'an dernier prouve que c'est possible.
Moi, je trouve que c'est raisonnable, en tout cas, de continuer à avoir une politique d'accompagnement d'une situation européenne qui est compliquée, et donc de continuer à baisser ses taux, pas violemment, mais à chaque réunion, et de les baisser au moins jusqu'à 2%. 2% qui font des taux réels, du coup, nuls. Hein. Alors, est-ce que c'est trop assez? C'est difficile à dire, mais je dirais des taux réels nuls... Ça ne fait pas beaucoup déjà, zéro.
Non.
J'ai du mal à
en lien avec la croissance potentielle de la zone euro. Hein.
J'ai quand même du mal à qualifier zéro de taux réel comme étant très resserré ou très, très dur.
D'accord.
Mais ça dépendra encore une fois de cet équilibre.
Oui, Alexandre, sur la divergence, oui, c'est possible qu'il y ait un écart fort qui se creuse entre la Fed et la BCE.
Il y a un an et demi, je n'aurais pas dit ça. Là-dessus, oui.
Ben on change. Bien sûr.
Parce que là, aujourd'hui, l'environnement.
Il y a un an et demi, on n'imaginait pas que la BCE puisse baisser les taux avant la Fed, même si c'est juste symbolique.
Voilà. 6 juin l'année dernière, 6 juin.
Oui, 6 juin, mais bien sûr, on avait célébré cette date.
C'est peut-être un signal.
Oui, oui.
Mais
libération de l'Europe.
Est-ce qu'elle va le faire? Est-ce qu'elle devrait le faire? La réponse est oui. Est-ce qu'elle va le faire? Voilà, c'est une interrogation. Il y a forcément, et il y aura du débat, à mon avis, dans les meetings de la BCE, et Mme Lagarde aura, et beaucoup de membres auront un rôle à jouer dedans. La clé là-dedans, je dirais, ça sera aussi le niveau de l'euro-dollar, parce que vous en parliez tout à l'heure, quelle est la tolérance de la divergence à laisser filer sa devise aussi. Mmh. Voilà, ça, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais ça, on avait ça en tête en disant... Elle ne pourra pas diverger trop longtemps.
Il y a beaucoup de choses pricées peut-être dans l'euro-dollar aussi, là, aujourd'hui, non?
Moi, je reste surpris finalement qu'on n'a pas touché encore la parité.
Ah oui?
On est trop proche de la parité pour ne pas la flirter quelque part aujourd'hui.
Enfin, je vois aujourd'hui ce qui se passe sur le marché britannique. Encore une fois, les taux montent. La Banque d'Angleterre n'est pas celle qui baisse le plus vite ses taux aujourd'hui. Et le sterling est en train de plonger. Hein. Donc on peut avoir une réaction sur la devise aussi là qui est très négative en tout cas dans le cas du Royaume-Uni. Comment on investit en actions dans le contexte là? Comment on investit sur le marché américain? Comment on investit sur le marché européen? Est-ce qu'il faut être investi sur les deux et de quelle manière aujourd'hui Aymeric?
C'est super compliqué aujourd'hui après avec une telle survalorisation des actions américaines c'est compliqué, mais après il faut pas aller contre les marchés et c'est ça le plus dur parce que aujourd'hui malheureusement le marché il est guidé par des flux, les flux vont tous dans le même sens, c'est valeurs de croissance US et malheureusement pour le moment ils vont pas en faveur de l'Europe et des valeurs grandes valeurs sous-valorisées et faiblement valorisées. On se paye 28 fois les bénéfices sur le S&P, 14 fois en Europe. On n'a jamais eu des divergences depuis aussi longtemps, aussi importantes entre les deux grandes zones géographiques. Mais in fine, il faut bien voir qu'il faut rester pragmatique et ouvert à ce qui est en train de se passer. On a un nouveau président américain qui est pro-croissance, qui nous a habitués à favoriser les marchés actions dans le passé. on a quand même l'impression qu'il va continuer dans ce sens-là. À mon avis, ça ne sera pas dans la même forme, pas dans, dans les mêmes attitudes. On risque d'être surpris par certaines, certaines choses. Mais quand
ça a commencé. Hein.
Quand on voit aujourd'hui, quand on voit aujourd'hui les entreprises américaines, Meta, qui commencent à changer sa politique pour se mettre aux normes de ce que demandent les autres, il faut être très, très clair. Tout le monde a envie de participer à l'histoire de la croissance voulue par Donald Trump. Donc, in fine, on a plutôt tendance à penser que oui, il faut continuer.
Et ça peut justifier, entre les bénéfices, la croissance bénéficiaire attendue, et on peut faire le distinguo Mag 7, reste du marché, et les niveaux de multiples de valorisation qui sont atteints, on peut encore avoir des poussées positives sur le marché américain.
Clairement, on peut encore avoir, notamment au début de l'année, parce que les comparables ne sont pas si élevés que ça pour le début de l'année. On estime aujourd'hui qu'on a encore une croissance de 8 à 9% à attendre sur le S&P 500 des croissances de bénéfices pour l'année 2025. Donc clairement, on a encore du potentiel maintenant. Moi, je fais partie aussi de ceux qui travaillaient déjà dans les années 2000 sur les marchés financiers. Et on se rappelle un petit peu ce que les survalorisations avec les croissances valorisées à l'infini pouvaient donner dans cette période-là. Et donc, quand on voit l'exemple type, c'est malheureusement Nvidia, où on a un extrêmement bon communicant à la tête d'Nvidia, qui est capable de réinventer en permanence l'histoire de son entreprise et la pousser au maximum de ses capacités, pousser les marges au maximum. C'est génial, c'est exceptionnel, c'est un patron incroyable, c'est une entreprise incroyable qui mène aujourd'hui toutes les Mag 7, toutes les grandes entreprises américaines. Derrière, c'est le cloud qui en profite, c'est les sociétés Microsoft et compagnie, Alphabet, et toutes ces valeurs-là en profitent et sont quelque part aspirées par ces phénomènes-là.
Et ces boîtes-là, aussi spectaculaires qu'elles soient, peuvent encore pousser leurs marges, accroître la dimension des marges de profit.
Si on atteint 75% de marge chez un Nvidia, on va avoir du mal à un moment donné à aller beaucoup plus haut. Donc c'est pour ça que je parle de survalorisation moment donné. C'est pour ça que nous, dans notre scénario, nous on pense qu'au début de l'année, oui, on peut encore avoir cette espèce de Trump trade qui constitue la base de l'investissement sur les valeurs de croissance américaine qui justifie ces positions-là. Mais on n'exclut pas qu'à un moment de l'année assez proche, c'est-à-dire fin de premier trimestre ou deuxième trimestre, on est quand même à un moment donné un vrai rappel à l'ordre sur les marchés, notamment américains, qui viennent dire « Non mais les gars, vous êtes allés un peu trop loin sur les valorisations, les taux sont en plus assez élevés, il faut à un moment donné respirer et on ne serait pas étonné qu'il y ait une vraie baisse des marchés actions aux États-Unis. »
Et ce serait bon pour l'Europe ou pas alors?
Malheureusement, on baisserait aussi en Europe, peut-être dans des proportions un peu moindres, parce que vous regardez toutes les grandes et belles valeurs. Je prends des exemples, mais à la volée, du
Schneider, du SAP.
SAP, Schneider, c'est des valeurs de croissance. Donc, elles baisseraient quand même assez nettement. Mais les vraies valeurs défensives européennes baisseraient, mais dans des moindres proportions, et retrouveraient sûrement de l'attrait auprès des investisseurs, parce qu'elles ont été balayées par les investisseurs toute l'année 2024. Donc, aujourd'hui, on a quand même un sentiment que oui, on peut participer encore un peu à la fête avec ces valeurs de croissance, parce qu'il y a du fondamental, il y a de la croissance, il y a des perspectives de croissance bénéficiaire, ça, il n'y a pas de sujet, mais à un moment donné...
Il y aura un moment de rendez-vous, quoi.
On ne sait pas d'où va venir l'étincelle, mais on sait qu'elle va venir.
Oui, oui.
Et pour le coup, on est assez persuadé...
Avec
qu'on
Trump, le risque d'étincelle est toujours présent.
Oui, ça c'est sûr. Et l'usage de X au Twitter...
Oui, puis c'est Trump plus Musk maintenant. C'est-à-dire que c'est ça qui diffère aussi du premier mandat de Trump, c'est que maintenant, ils sont deux à mettre des coups de boutoir un peu partout. Sur le marché américain, comment on aborde l'investissement action sur le marché américain aujourd'hui, Alexandre? Et quelle chance pour l'Europe de voir peut-être une partie de la décote de valorisation se réduire? Et comment on a envie d'aborder le marché américain? Par quel bout?
En fait, la problématique aujourd'hui pour beaucoup d'investisseurs, c'est le niveau de concentration de l'indice américain. Je donne quelques chiffres. Les 10 capitalisations boursières américaines, c'est 37% du S&P 500.
Ouais.
Pour remplir les 50% de l'indice aujourd'hui, vous n'avez besoin que de 26 sociétés.
D'accord.
S&P 500, c'est pas forcément le mieux diversifié.
Mais c'est juste le S&P, c'est ou c'est... petite parenthèse là-dessus, parce que j'avais fait le calcul, si on prend les 10 premières valeurs du CAC 40, je crois qu'on arrive à un taux qui est proche de 40. Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est... on parle beaucoup du S&P parce que le poids des valeurs est gigantesque. Mais cette concentration, on l'observe. Le MIB en Italie, c'est quelques valeurs. Le DAX, c'est quelques valeurs aussi. Enfin, c'est...
Sur les indices émergents, hein,
on retrouve ça partout. Quoi.
Avec TSMC, par exemple.
Ouais, c'est ça.
Et y a un, je trouve un petit peu peut-être une confusion entre concentration de marché et dominance. Parce que des Nvidia, il n'y en a pas qu'un sur la planète. Il n'y en a qu'un seul. Ouais. Donc, en fait, il y a des moyens, évidemment, de diversifier ce risque, ce risque de valorisation, pour déconcentrer les indices qu'on appelle les indices smart. Donc, ils ne vont pas pondérer par la capitalisation. Vous pouvez le faire de manière équipondérée. Vous pouvez le faire pondérer par les risques. Tout ça, c'est plutôt sur une approche de risque. Maintenant, nous, en tant qu'investisseurs, est-ce qu'on veut délaisser cette partie de la côte où il y a une énorme croissance, il y a des marges, il y a des flux, et il y a des CEO emblématiques? Je trouve que c'est compliqué.
Les Max Seven, on attend 20% de croissance bénéficiaire cette année.
18, c'est ça. Mais 18, bon, c'est 50% de plus que le reste de la cote. Ouais. Donc finalement,
C'est ça, c'est plus que le reste de la cote encore.
La croissance des profits là, mais pour autant, il y a quand même une diffusion un petit peu de cette croissance des profits au reste de la côte. En 2023, toute la performance, c'était les Max Seven. L'année dernière, c'était la moitié. Ouais. Donc, il y a un rééquilibrage.
Attends.
Et nous pensons, par exemple, dans notre gestion de portefeuille chez Indosuez, on a plutôt tendance à dire, on garde quand même du S&P et du Max Seven, donc les 7 fantastiques, et on plutôt que de faire de l'équipondéré, peut faire rajouter, par exemple, des small caps. Alors, plutôt la partie profitable des small caps, parce qu'on se dit, Trump, il est plutôt marché domestique, il veut même baisser la fiscalité, notamment sur les entreprises qui produisent en domestique, et l'amener à 15%, donc ça devrait favoriser ce type d'entreprise. C'est d'ailleurs un segment marché qui est assez délaissé. Donc finalement, c'est peut-être une façon de se diversifier, de résoudre ce problème de concentration, mais ne confondons pas la concentration à la dominance, parce que finalement, cette dominance, elle est américaine, elle est présente, elle ne va pas disparaître du jour au lendemain, et si vous en privez, vous privez potentiellement de belles croissances et donc de belles performances.
Ouais. Gustavo, comment vous abordez l'investissement action sur le marché américain, sur le marché européen? Et c'est vrai que 2024 n'est pas que l'histoire des Max Seven. Il y a des financières, des valeurs d'énergie, des valeurs industrielles aux États-Unis qui ont affiché au sein du S&P d'excellentes performances également.
Oui,
et mieux que la tech parfois pour certaines
entreprises. Même en Europe. Quand on dit à beaucoup de nos clients ou des investisseurs que l'année dernière en Europe, la meilleure performance, c'était les banques, le secteur bancaire globalement, ils nous disent
C'est quoi, plus 23%, c'est ça?
Exactement.
Et ça fait quelques années, que ça fait 2-3 ans que ça fonctionne comme ça.
Malgré toutes les difficultés de l'Europe, etc. Donc on leur rappelle toujours que, c'est vrai, je suis économiste chez Dorval, mais enfin, tout de même que les marchés, c'est pas que une question de macroéconomie, évidemment, et qu'il y a des histoires spécifiques, des dynamiques de marché, et que les banques sont un bon exemple, même si l'Europe a des difficultés économiques claires, les banques, les valeurs bancaires, qui pourtant sont réputées être très sensibles à la macroéconomie, ont fait très bien, pour d'autres raisons. Il n'y a pas qu'une question de croissance, etc. Donc il y a ces points-là à retenir. Nous, évidemment, comme toujours la même chose, dans la gestion, nous sommes des économistes dans le pôle dans lequel je travaille chez Dorval. C'est des économistes sur les marchés boursiers, donc on ne veut pas prendre beaucoup de risques spécifiques. Le problème, évidemment, c'est que les Max Seven elles ont un mag. Si elles sont magnifiques, les marchés sont rarement complètement...
À côté de la plaque, oui, je suis d'accord avec cette idée. Oui, je suis d'accord avec cette idée.
C'est ce que j'ai appris quand même depuis quelques temps que je travaille.
Merci de le rappeler.
C'est assez efficient, c'est pas du tout évident de repérer des exagérations, quoi que ce soit. Donc elles sont bien fantastiques. Simplement, elles sont fantastiques chacune pour leurs propres raisons. Je pense qu'elles ne sont pas du tout fantastiques, spécialement parce que les taux d'intérêt font ceci ou cela.
Non.
Leur rapport au taux d'intérêt est très complexe.
Ouais.
Fondamentalement, ce sont des entreprises de qualité. Alors, par contre, comme elles sont chères, les attentes sont très élevées. Et aussi, en tant qu'économiste, je connais la loi des rendements décroissants. Après, ça peut mettre très longtemps. Mais quand on investit, qu'on a des capex de ce niveau-là, Microsoft ou d'autres, parce que Nvidia, si elle gagne beaucoup d'argent, c'est parce que c'est l'argent qu'elle récupère des autres, des 6 autres qui lui investissent chez elle. Donc c'est un peu entre elles, cette histoire. Mais est-ce qu'ils vont réussir à rentabiliser de tels investissements? J'en sais rien. C'est pas, en tant qu'économiste, j'ai pas grand-chose à dire. Je ne suis pas un spécialiste de l'IA. Mais disons que mon expérience générale me fait dire que c'est pas évident que ça sera aussi rentable que qu'il l'imagine.
Donc il peut y avoir une phase de déception par rapport à cette idée-là.
Des phases difficiles, etc. Quand on est effectivement, et ça a été rappelé, quand on est aussi concentré, le risque c'est qu'on a l'impression d'avoir un portefeuille diversifié, mais il n'est pas tant que ça. Il est très concentré sur un thème très très spécifique qui est fantastique, mais du coup plus risqué. Et donc on préfère quand même être très diversifié. Et voilà, les banques européennes, c'est un bon exemple de quelque chose, d'un thème complètement délaissé.
Qui reste une conviction solide pour vous, les vents qui ont porté le secteur bancaire.
Qui reste toujours présent. S'il n'y a pas une grosse récession en Europe, ce que nous n'attendons pas, mais enfin, bon, évidemment, on sait que c'est un des risques. Si le taux de chômage continue de monter en Allemagne, en France, et vraiment on arrive à des zones très très dures de gros risques de récession, là, on révisera notre point de vue sur les banques. Mais en attendant, ça reste une bonne diversification. Il y a le marché japonais, il y a l'Australie, il y a plein de... Voilà, on essaie toujours d'être très diversifié et d'éviter effectivement de mettre trop de risques sur, par exemple, le thème de l'IA, sur lequel nous sommes investis, mais disons, plus raisonnablement peut-être qu'un indice en général le serait. Quoi.
Ouais, bon. Le MSCI World, c'est quasi 70% d'US. Aujourd'hui, c'est 70% d'US. Et donc, dans ces 70%...
Si j'avais vu sur le MSCI World Country, c'est 66,6. 666, la petite histoire.
En attendant les 6666 points sur le S&P 500, qu'on verra peut-être au cours de cette année 2025. Un mot du crédit, je ne sais pas qui veut en dire un mot, parce que c'est vrai que c'est une classe... On est dans Smart Bourse, je le dis à chaque fois, mais le crédit a été quand même une classe d'actifs remarquable en 2024. C'était difficile de faire mieux en termes de rendement, volatilité, que des indices crédits. On a des indices crédits high yield en Europe qui ont mieux fait que des indices actions, par exemple. Ça reste dans un portefeuille global, dans une allocation, ça reste un pilier.
Attention à ce dont on parle sur le crédit en Europe, typiquement, parce que si on regarde même l'indice Investment Grade Europe... Ouais. On n'a fait que 2%, on n'a même pas fait le portage
sur l'investment grade. Sur
l'investment grade en Europe. Donc c'est vraiment une vraie catégorie qui a marché sur le crédit, qui est la partie du high yield, qui a fait 9% en Europe, 8% aux US.
Dette bancaire, c'est à deux chiffres, je pense.
Notamment la partie financière était extrêmement bonne. Mais l'indice crédit en lui-même, investment grade, donc des obligations d'entreprise bien notées, il a clairement sous-performé, il n'a même pas fait le portage.
Parce que l'IG est beaucoup plus corrélé au taux d'État,
Exactement. Alors que... On a des niveaux qui sont beaucoup plus élevés sur le high yield et donc du rendement du portage beaucoup plus élevé. Et il y a eu des resserrements de spread sur la catégorie high yield qui ont été plus importants. Et donc c'est là où...
Et donc le bon pain est derrière nous, c'est ce que vous dites
Non, pas du tout, pas du tout. Au contraire. D'accord. Au contraire, pour nous, tant que les rendements et le portage est élevé, on a plutôt tendance à continuer à favoriser.
Et malgré les spreads serrés, on trouve encore des rendements absolus
Notamment pour une raison qui est importante, les taux de défaut restent très bas, et surtout en Europe. Et surtout, on a toujours cette espèce de... C'était Alexandre qui le disait très bien, il y a ce put sur les taux qui est toujours présent et qui risque de nous accompagner toute l'année 2025, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et là, pour le coup, c'est génial pour les taux de défaut, c'est génial pour nous empêcher d'avoir de trop grosses fluctuations sur le marché obligataire ou en tout cas sur les spreads de crédit. Donc c'est pour ça que nous, on continue à favoriser très très clairement la classe d'actifs.
Ça reste là aussi qui est un terrain confortable pour vous d'investissement, Alexandre.
Oui, je compléterai la réponse. C'est qu'il y a également l'aspect flux qui est très important sur ce marché, parce que rien que le réinvestissement des coupons qui sont payés aux investisseurs, rien que ça, ça va absorber la moitié de ce qui va être émis. Et ça, on a toujours un peu du mal. C'est vrai que même moi, quand je discute avec nos gérants obligataires, on dit « Ouais, les valorisations, aujourd'hui, c'est cher, il n'y a plus beaucoup de spread. » J'entends, évidemment, mais est-ce qu'on veut se priver de ce spread aujourd'hui à un moment où les taux de défaut sont relativement bas? Peut-être pas. Après, ramener au niveau du rendement, ça reste encore attractif. Puis la vraie question, finalement, est de se dire « Mais où est-ce qu'il est le risque aujourd'hui? Est-ce que c'est sur une entreprise ?» qui est profitable, qui rend du cash et qui n'a pas de problématique de bilan, ou est-ce que c'est plutôt un État? Alors, dit autrement, j'avais déjà évoqué cette idée, elle est peut-être un peu saugrenue, mais à quelle mesure un jour on pourra avoir des spreads négatifs? Microsoft, ils empruntent à, moins 12 BP, proche des US. Oui. Et pourquoi on ne pourrait pas avoir à un moment donné des entreprises qui empruntent un taux inférieur à l'État?
Oui, oui.
Donc, voilà, donc, après,
le statut de valeur refuge, d'actif sans risque, a peut-être, une partie a peut-être été perdue par les souverains et une partie a peut-être été regagnée par des corporates.
Sur la dernière décennie, hein, la notion d'actif sans risque a été quand même challengée à plusieurs reprises. Les prix négatifs, des taux négatifs, le pétrole négatif, il y a eu quand même beaucoup d'épisodes avec des choses qui étaient absolument impensables.
On a des swap spreads négatifs, c'est ça aujourd'hui, hein, qui montre une petite défiance peut-être sur les signatures des États.
Complètement.
Gustavo, et sur la partie crédit, est-ce que c'est comment vous regardez cette classe d'actifs aujourd'hui?
Aujourd'hui, on n'investit pas dans le crédit, on fait uniquement des actions et
des fonds d'allocation internationales. Vous pilotez chez Dorval.
Voilà, absolument. Donc on fait des actions d'un côté et de l'autre côté du monétaire.
Du monétaire.
Alors, le monétaire, dans le sens, c'est des TSN, hein, c'est bien du crédit, hein, je dirais que on ne prend pas beaucoup de risques là-dessus.
Ouais. Oui, mais
D'abord, c'est parce qu'on a des actions, et mélanger des actions et du crédit. Par exemple, si je mélangeais des actions et du high yield, je suis en train d'empiler des risques qui vont, bien sûr, se corréler au pire moment. Évidemment, le high yield, c'est une classe d'actifs très intéressante, mais forcément, si les entreprises sont dans le high yield, c'est pour une raison. Le marché, encore une fois, les investisseurs ne sont pas complètement absurdes, donc s'ils font payer des rendements plus importants, c'est bien que ce sont des entreprises beaucoup plus fragiles. Et c'est vrai qu'on préfère quand même quelque part être actionnaire d'entreprises, de multinationales, des grandes entreprises de grande qualité, plutôt qu'être créancier d'entreprises qui, si elles payent des taux d'intérêt élevés, certes sur des spreads faibles, ce qui veut dire que leur risque perçu est peut-être faible, mais enfin pour elles c'est quand même une charge aussi importante. Donc c'est vrai que c'est pas la classe d'actifs sur laquelle aujourd'hui on irait investir. On reste quand même plutôt sur les actions en marché, bon, effectivement beaucoup beaucoup plus liquide. Et voilà. Bon,
les actions ont très bien fait l'an dernier. Enfin. Oui, globalement.
Bah, on a fait des performances tout à fait comparables à ceux du high yield.
Oui, c'est ça. Bon, merci beaucoup, messieurs. Merci pour votre éclairage, vos réflexions de début d'année sur ces perspectives de marché, ces perspectives économiques et ces solutions en matière d'investissement. Gustavo Orenstein, responsable de la recherche et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management, Aymeric Didet, directeur de la gestion de Pergam, et Alexandre Drabovic, directeur des investissements d'Indosuez Wealth Management, étaient les invités de Planète Marché.